Chapitre 44. 24 décembre 2017. Petit four au fromage, carpaccio de cèpe, terrine la bonne foi, ça c'est pour l'apéritif. Pour le repas, j'ai prévu un velouté de patates douces et lait de coco en entrée, du risotto au mori et ravioles aux truffes, suivi de quelques mignardises et d'un vacherin glacé à la fraise. Tu es plutôt vin rouge ou vin blanc? En fait, tu es un psychopathe. C'est possible. Ou homo. C'est possible aussi. Nina, les bras chargés de sacs, dépose une bouteille de champagne et de Bordeaux, des chocolats et un paquet cadeau sur la table du salon, tout en observant celle que Romain a dressée dans la salle à manger. Tout est beau, raffiné et terriblement appétissant. Il est également vêtu d'un pantalon et d'une chemise noire. Bob est aux pieds de Nina. Il la fixe en remuant la queue. Elle s'accroupit pour le caresser. « C'est un cadeau pour moi ?» demande Romain en désignant le paquet qu'elle vient de déposer. « Non, pour Bob !» plaisante Nina. « C'est quand même beaucoup tout ça. Cette table, ces préparatifs. Je pensais qu'on mangerait une omelette au coin du feu. »« Une omelette, un soir de Noël ? Et je te rappelle que je n'ai pas de cheminée. De quel feu parles-tu » Nina ne peut réprimer un sourire. « Ça ne représente pas grand-chose pour moi, Noël, » avoue-t-elle. « Tu n'es pas catholique ?» « Je suis orpheline, divorcée, et je travaille dans un refuge. Je ne vois pas ce que Jésus viendrait fabriquer dans mon histoire. Il a pris trop de retard. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es croyant? Athée. Mais pour une fois que j'ai une invitée à Noël, j'en profite. Et tes amis? » Romain sourit en débouchant une bouteille de ruinard rosé. « Ils sont en famille. » « Et la tienne, de famille? » « Mes parents vivent en Australie. J'y vais un Noël sur deux. Tu tombes sur la bonne année. » Ou pas. Il tend une coupe à Nina. À toi. À toi. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Le soir du réveillon, Louise dîne avec ses parents, ses deux frères, ses belles-sœurs et leurs enfants. Elle gâte tout le monde, particulièrement sa mère et ses trois neveux. Elle a toujours eu une préférence pour Valentin, mais ne fait aucune différence dans la valeur des cadeaux qu'elle leur offre. Cela doit être héréditaire de faire des préférences dans cette famille. Elle est mal à l'aise vis-à-vis d'Étienne par rapport à leur père. La petite chouchoute à son papa. Combien de fois a-t-elle entendu cette phrase de merde? Comme il est injuste de préférer l'un de ses enfants, et pour lui et pour les autres. Mais l'amour ne se discute pas, et Marc ne sait pas faire semblant. Lorsqu'il veut faire un effort, décide de s'intéresser à Étienne, lui pose une question à propos de son travail ou de sa vie en général. Louise voit qu'il décroche très vite quand Étienne, lui, fait semblant de ne pas s'en apercevoir. « Je m'en fous, sœurette. Maman m'aime pour deux. »« Et moi pour trois, » lui répond-elle en masquant sa tristesse. Une fois tout le monde couché, elle retrouve Adrien pour passer la nuit de Noël avec lui. Au petit matin, elle rentre et se glisse dans son lit quelques heures avant que la famille se réunisse autour du sapin pour ouvrir les paquets. Depuis qu'Adrien a 17 ans et Louise 16, ils se rejoignent à l'hôtel des voyageurs, chambre 4. C'est la plus petite, la moins coûteuse, celle située sous les toits et que l'on attribue en dernier recours. Cet hôtel de la Comelle affichait complet autrefois, quand l'usine Magellan embauchait encore et que les prestataires extérieurs y résidaient continuellement. Aujourd'hui, quelques représentants et consultants y séjournent, mais la plupart des chambres restent vacantes depuis longtemps. À présent, Louise et Adrien sont les seuls à dormir chambre 4. Ils pourraient en choisir une autre, mais par superstition, ils ne le font pas. Où que soit Adrien dans le monde, dans la nuit du 24 au 25 décembre, il est à la Comelle pour dormir avec Louise. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Louise aime Adrien. La première fois qu'elle l'a vu, c'était au primaire, le jour de la rentrée. Il était en CM2, elle en CM1. Elle l'a vu arriver en retard à la cantine avec Étienne et Nina. Il était nouveau, essoufflé, rougissant, observait les autres d'un air distrait, mais dès qu'il revenait vers ses deux amis, il avait l'air plus concentré. Louise a essayé de ne pas le regarder, mais à chaque fois, sans qu'elle le veuille vraiment, comme une anomalie oculaire, elle posait les yeux sur lui. Son regard prenait une longueur d'avance sur sa pensée. Il la précédait. La première fois qu'elle lui a parlé, c'était deux jours plus tard. À la récréation, elle s'est intentionnellement positionnée sur la trajectoire de son frère, au milieu de la cour, à viser le moment où ils passeraient tous les trois sur un point de rencontre entre deux lignes imaginaires, un peu comme ferait un tireur d'élite. Et elle est sortie de sa marelle, un palais à la main, qu'elle a serré très fort. Presque surpris de la découvrir là, dans la cour de leur école, Étienne a marmonné à Nina et Adrien. « C'est ma sœur, Louise. » Elle leur a souri, a dit « Salut !» et est repartie rejoindre les filles de sa classe, rouge comme une pivoine. Elle avait tout de même eu le temps de plonger ses yeux bleus dans ceux d'Adrien, tandis que Nina et lui souriaient gentiment. Louise s'est repassé le visage d'Adrien dans sa tête jusqu'à l'heure du déjeuner. Adrien n'était pas beau, mais l'amour et la beauté n'ont rien à voir. On les met dans le même sac, par facilité. Ça revient à enfermer une étoile et un clou ensemble, parce qu'on peut accrocher quelque chose dessus. Adrien dégageait un mystère et une profondeur sans lien avec l'enfance, un peu comme une énigme. Ensuite, il y a eu les mercredis, les soirs, les week-ends. Parfois, Louise rentrait chez elle et sentait qu'Adrien était là, dans la chambre de son frère ou au sous-sol à faire de la musique, même si ses chaussures n'étaient pas rangées dans le meuble de l'entrée. Elle se cachait pour les observer. Et toujours ce regard tendre qu'Adrien posait sur Nina dès qu'elle ouvrait la bouche. Louise n'était pas jalouse. C'était le même regard que posait Étienne sur elle, quand il ne savait pas qu'elle le sentait, qu'elle le surprenait. Celui que seul un frère pose sur une sœur. Après, il y a eu la pie maladie. Louise ne comprenait pas pourquoi Adrien se décharnait, s'étiolait, l'ombre de lui-même, perdu, les récréations sans lui, en retenue chaque soir. Elle ne le voyait guère qu'entre deux portes. Étienne a dit un jour aux parents « Pie en fait baver des rondes frites à Adrien ». Mais que pouvait bien signifier « en faire baver des rondes frites » ? Quand Adrien a été hospitalisé à cause de l'instituteur, Louise est montée jusqu'à chez lui plusieurs fois en vélo, a fait des repérages et décidé d'asperger ses plantations d'eau de Javel. Tout a brûlé dans la nuit. Au petit matin, les parterres de fleurs qui entouraient le pavillon avaient une couleur de pisse. Et puis les grandes vacances ont plongé Louise dans un profond chagrin. Les trois allaient entrer au collège, tandis qu'elle devrait rester en primaire pour son année de CM2. Les journées allaient s'éterniser et la cour rapetisser. Un jour de juillet, ils ont débarqué ensemble à la maison, ont écouté de la musique en s'enfermant dans le séjour. Ils ont dansé, hurlé, trois fous furieux. Louise s'est cachée tout l'après-midi dans sa chambre. Quand ils sont repartis, elle est descendue. À imaginer parmi les bouteilles de soda abandonnées sur la table, dans lesquelles Adrien avait bu. Elle a tout respiré derrière eux comme un chien cherchant l'odeur de son maître parmi d'autres. Les années de collège, quand ils se croisaient, ils se saluaient timidement. Parfois, Adrien lui demandait si l'école, ça allait, les matières, les profs, tout ça. À quoi Louise répondait toujours oui avant de filer. Elle ne parvenait pas à soutenir son regard. Chaque soir, elle imaginait leur mariage, la fête, leur tenue, l'échange des alliances, la musique, Étienne et Nina témoins, mais elle était incapable d'aligner trois mots quand elle était en face de lui. Les choses ont changé quand ils sont partis ensemble à Saint-Raphaël, l'été 1990. Elle n'a pas dormi les nuits précédant leur départ. Des mois qu'elle entendait sa mère dire qu'aux prochaines vacances, si Étienne remontait sa moyenne générale, Adrien et Nina feraient partie du voyage. Louise n'était pas sans savoir que son flemmard de frère se faisait aider par ses deux amis. Elle surveillait ses notes, ouvrait son carnet de liaison en douce et a intercepté son bulletin scolaire avant que la famille ne mette la main dessus. Elle a découvert la moyenne générale de son frère en dansant dans sa chambre. 14, c'était gagné. Ils allaient se retrouver dans la même maison au cœur de l'été. Adrien dans la chambre d'à côté. Adrien sur la plage, partageant les repas, les beignets, les serviettes, la même vue. Le mur d'étroit qui lui paraissait jusqu'alors infranchissable s'est fissuré le jour où elle a lu les appréciations et les notes d'Étienne. Elle a refermé l'enveloppe, l'a glissée dans le courrier, et le soir même, dans la liesse générale, sa mère a téléphoné au grand-père de Nina et à la mère d'Adrien pour leur demander officiellement la permission d'emmener leurs enfants au bord de la mer. Louise était cachée dans le couloir quand Marie-Laure a annoncé à Étienne qu'ils avaient dit oui. Ce oui, c'était celui qu'Adrien lui dirait un jour devant le maire. Adrien entre dans la Comelle. Par réflexe, Il passe devant chez Nina, roule au pas. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Elle doit réveillonner ailleurs. Tant mieux, se dit-il. Elle n'est pas seule. Il ne peut s'empêcher de traverser la ville, prendre des rues qu'il connaît par cœur pour s'approcher de la maison des Beaulieu. Il reste à bonne distance pour ne pas être vu. Marie-Laure et Marc ont accroché des guirlandes clignotantes à l'extérieur. Adrien imagine Louise à table, observant son frère, se demandant si c'est son dernier Noël avec lui. Adrien sait qu'Étienne est malade. Louise le lui a dit. Il a hâte de la serrer contre lui, sentir sa peau, la caresser. Il aperçoit des ombres à l'intérieur. Il ressent un choc quand Étienne apparaît sur le perron. Depuis sa voiture garée à une vingtaine de mètres, Adrien le reconnaîtrait entre mille. Faut-il sortir de la voiture pour aller lui parler? Y a-t-il prescription, comme on dit? Il ne se laisse pas le temps de réfléchir et fait demi-tour, phare éteint comme un rôdeur. Il roule jusqu'à l'hôtel des voyageurs, prend son sac ne contenant qu'un change et une brosse à dents pour la nuit, attrape une glacière souple, enfermant une bouteille de champagne, quelques huîtres, du beurre salé et du pain de seigle. Comme tous les ans, il n'y a personne à la réception. La patronne réveillonne avec des copines. Le code d'entrée n'a pas changé depuis des lustres. 18-20 A. 18, la majorité. 20, le plus bel âge. A, comme amour. Elle a laissé la clé numéro 4 en évidence sur le comptoir. Adrien monte les trois étages, redécouvre la moquette rouge des années 90, le dessus de lit fleuri, les rideaux assortis, la frise sur les murs saumon. Les deux radiateurs sont brûlants. Adrien ouvre la fenêtre quelques minutes pour laisser l'air glacial baigner les tissus endormis, laver leur odeur de naphtaline. Il allume la vieille télévision pour faire du bruit. Une présence. Va dans la minuscule salle de bain et commence à ouvrir quelques huîtres qu'il dispose dans un plat en faïence. Étienne fume une cigarette en observant les étoiles. « Elles sont à des années-lumière, » disait Nina. « Ce que l'on voit d'elles, ici, est tronqué. Les étoiles, c'est comme des mensonges. » Étienne s'est empêché de penser à Nina toute la journée. Interdit. Nina appartient à une autre vie. La ressasser ne sert à rien. Mais il la revoit à présent, imprimée dans sa rétine. Son regard n'a pas changé. Aussi intact qu'un métal précieux qu'on aurait protégé dans un tissu satiné. Marie Castille le rejoint à l'extérieur, un châle sur les épaules. « Ça va, mon amour? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre froid? » « Faut que je t'avoue quelque chose, » lui dit-il d'un air sombre. Marie Castille se rembrunit. Elle sent qu'Étienne est différent depuis quelques semaines. Il paraît préoccupé. Elle ose à peine prononcer les mots. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il la fixe dans un demi-sourire. Ses yeux la font fondre, la feront toujours fondre. Dès qu'elle l'a vue la première fois, elle a su qu'il serait à elle. Elle l'aime obstinément, jalousement, obsessionnellement. Quand elle a donné naissance à Valentin, elle a été plus heureuse de faire ce cadeau à Étienne que d'être mère. Elle l'est devenue par amour pour son mari, qui est fou de leur fils. Et Valentin ressemble à son père. « Tu sauras garder le secret ?» lui demande-t-il. « Oui, » souffle-t-elle. « Promis ?»« Promis. » Je guette le Père Noël. Quoi ? Je fais semblant de sortir pour fumer, mais la vérité, c'est que je crois au Père Noël. J'espère le voir. Que tu es bête, tu m'as fait peur. C'est pour ça que tu m'aimes. Il la serre contre lui. Elle tremble. Il regrette sa mauvaise blague. Comment peut-on être aussi con ? Pense-t-il. Et si lâche. Je trouve que Louise est bizarre ce soir. Elle a l'air triste, dit Marie Castille dans le creux de son oreille. Elle est toujours triste, répond Étienne, laconique. Et pas qu'à Noël. Ah bon ? Pourquoi ? Je n'avais jamais remarqué. Oh, une vieille histoire. Quelle histoire ? Un homme. Je croyais que ta sœur préférait les filles. Plus compliqué que ça. Il écrase sa cigarette et embrasse sa femme à pleine bouche pour la faire taire et lui signifier qu'il l'aime. Il ne pourra pas lui cacher sa maladie encore longtemps, l'affaire de quelques semaines. En plus, il perd du poids. Ses muscles s'atrophient trop vite. Ça a commencé par une IRM de l'abdomen et un scanner du thorax. il a prétexté un rendez-vous avec un indique à ses collègues, dont Marie Castille. Obligé d'y aller seul. Au vu des résultats et de la gueule des spécialistes, Étienne a demandé à Louise d'être près de lui quand il se réveillerait. On a fait glisser un endoscope le long de sa gorge pour descendre jusqu'au duodénum. Le duodénum ? Jamais entendu parler. Louise lui a expliqué qu'il est enroulé autour de la tête du pancréas. Comme un pneu autour d'une jante, si tu veux. À l'aide d'une sonde, ils ont examiné son pancréas sous toutes les coutures et ont procédé à une biopsie de la tumeur pour évaluer le stade. Le cancer du pancréas se développe sournoisement, sans jamais se manifester ni faire de bruit. Une timidité mortelle. Quand il commence à se faire ressentir, c'est que c'est grave. Avancé. C'est un des pires cancers. Il est foudroyant. C'est la première fois que je suis premier en quelque chose, s'est dit Étienne. J'ai dépassé mon frère. Meilleur que lui en maladie. Mon père va enfin être fier de moi. Au réveil, Louise était près de lui. Quand il a vu la tête de sa sœur, il a compris que c'était foutu. Elle avait posé un sourire artificiel sur ses lèvres quand ses yeux étaient rongés par la peur. Même ses paupières tremblaient sous le postiche du « tout va bien ». Louise avait déjà prévu les rendez-vous et un protocole de soins avec des oncologues. On va t'opérer, faire des séances de chimio très virulentes pour réduire la tumeur, et après, on te retirera le pancréas. On peut vivre sans. Étienne a pensé qu'il vivait déjà sans rêve et sans amour. Seul Valentin comptait parmi ses étoiles mortes, l'unique qui brillait dans le ciel de sa vie, le seul fil qui le reliait encore au jour. C'est pour cette raison qu'il préférait disparaître plutôt que Valentin assiste à sa misérable chute. Il y a 15 jours, à Lyon, Étienne est allé voir sa sœur en consultation. Il lui a demandé des médicaments pour ne pas souffrir. « Tu me mets la dose, hein ? Un truc à faire pâlir les stupes ?»« Après, je vais partir quelque part, tu sais, comme dans les films romantiques que je déteste et que t'adores. Je veux mourir au bord de la mer, enroulé dans une couverture, assis sur un banc, peinard, sans personne. Imagine le soleil se lever sur ma figure de mourant. » »« Arrête, Étienne, ce n'est pas drôle. »« Tu ne m'appelles jamais, Étienne. Tu t'entraînes pour quand tu évoqueras les souvenirs de ton frère ?» Louise s'est mise à pleurer. Il lui a demandé pardon. Tu peux guérir. Non, tu sais très bien que je peux pas. T'as vu la gueule du truc? Je suis métastasée de partout. Les chimios sont ciblées, on peut au moins essayer de réduire la tumeur. Ce que je traîne depuis que j'ai 17 ans, personne ne peut le réduire.